France Musique.
No, I'm still sloppy. Practicing is in order.
You are about to hear a rather, shall we say, unorthodox performance of the Brahms D minor concerto.
And the era of really almost total exploitative individuality of the early Baroque, which was about to come. But as I said before, I love
a performance distinctly different from any I've ever heard, or even dreamt of, for that matter, in its remarkably broad tempi and its frequent departures from Brahms' dynamic indications.
Bienvenue dans ce quatrième épisode de notre série consacrée à Glenn Gould. Toute cette semaine, on retrace ensemble la carrière de ce personnage, aussi excentrique que passionnant et polyvalent. Après une revue discographique hier de ses enregistrements solo de Beethoven, Brahms et Mozart, je vous propose aujourd'hui de regarder d'un peu plus près les collaborations qu'il a eues avec un certain nombre d'interprètes majeurs. Plusieurs de ses contemporains d'où émergent les noms de Bernstein, Karajan, Schwarzkopf, le quatuor Juilliard, Leonard Rose ou encore Yehudi Menuhin. On dit souvent que la musique de chambre est un domaine qui ne se prête pas toujours facilement à la collaboration de personnalités très affirmées. C'est peut-être ce qui expliquerait que même s'il en a eu de nombreuses fois l'occasion, notamment avec le festival de Stratford au Canada, dont il était pendant 2 ans le directeur artistique, eh bien, il n'a eu que des expériences assez limitées à jouer avec les autres. Expériences qui se comptent sur les doigts d'une main et qui se réduisent pratiquement aux quelques noms évoqués. Je vous propose de commencer par un joli témoignage de musique de chambre, un disque co-enregistré avec Leonard Bernstein, avec le quatuor pour piano et cordes de Schumann, opus 47, et le quintet avec piano. Ce sont les musiciens du quatuor Juilliard, et chose étonnante, Glenn Gould ne joue que le premier mouvement du quintet. Il laisse à Bernstein le soin d'enregistrer les mouvements 2, 3 et 4, et c'est le final vivace du quatuor que je vous propose tout de suite, un enregistrement 6 bièces de 1973. le final du quatuor avec piano de Schumann, l'opus 47 en mi bémol majeur, Glenn Gould partageait les micros avec le quatuor de Juilliard et Leonard Bernstein qui joue également dans ce CD. C'était en 1973. Et quelques années plus tôt, en 1966, avait eu lieu une autre rencontre au disque tout à fait inattendue, celle avec l'éminente soprano Elisabeth Schwarzkopf. Alors la rencontre a eu lieu dans un studio surchauffé de New York, avec pour projet d'enregistrer un disque de mélodies de Richard Strauss. Deux mondes complètement à part qui se rencontrent, et un résultat qui ne convaincra certainement pas tout le monde. Et pourtant, ce n'était pas faute d'apprécier le compositeur ou l'artiste. Gould a adoré Richard Strauss et aimait peut-être encore plus la voix d'Elisabeth Schwarzkopf, qu'il portait au nu, à peu près à égalité avec la voix de Barbara Streisand. Un témoignage nous rapporte d'ailleurs sa réaction la première fois qu'il découvre cette voix. « Tandis que je l'écoutais, un sourire fendu jusqu'aux oreilles s'attaqua à mes muscles faciaux, lesquels ne daignent s'exercer de la sorte que lorsque je suis confronté à des exemples uniques du rite de la récréation. » On imagine alors le plaisir qu'il a eu à enregistrer le fameux Morgen de Strauss aux côtés de cette voix tant adulée.
Thank you.
le fameux Morgan de Richard Strauss par Elisabeth Schwarzkopf, avec un Glenn Gould au piano qui pour une fois ne chantonne plus du tout. Un témoignage assez rare dont on a regroupé l'ensemble sous le titre « Les Schwarzkopf Tapes », les bandes Schwarzkopf. Rencontre vue par beaucoup comme un relatif échec du fait de personnalités musicales sans doute trop éloignées. Mais un enregistrement à l'occasion duquel Glenn Gould émettra également la profession de foi suivante qui nous en dit toujours plus long sur la montagne de travail qui pouvait éventuellement se faire en post-production lorsque Glenn Gould produisait un disque. Voici ce qu'il en dit. En matière d'art, la fin justifie tous les moyens éditoriaux, aussi biscornus soient-ils. Peu importe la quantité de prises et d'inserts du moment que le résultat a l'apparence d'un tout cohérent. Rien ne me semble moins important que de savoir si Elisabeth Schwarzkopf et moi avons eu recours à une ou 20 prises pour enregistrer telle mélodie. Ce qui est en revanche très important, c'est de faire accepter le processus dans toute sa complexité, c'est de convaincre le non-croyant que l'enregistrement est un art en soi qui possède ses propres critères. Une chose est sûre, il n'est pas techniquement et financièrement possible de réaliser autant de prises que l'on souhaite lorsqu'on enregistre avec orchestre. Peut-être est-ce donc un Glenn Gould moins abouti mais plus spontané que l'on entend dans les quelques enregistrements qu'il a réalisés avec orchestre et quelques grands chefs. Je vous laisse en juger à l'écoute de ce troisième mouvement rondo du quatrième concerto de Beethoven en sol majeur que Glenn Gould a enregistré en 1961 avec Bernstein et l'Orchestre Philharmonique de New York. Thank you. Le dernier mouvement vivace du quatrième concerto pour piano de Beethoven. Leonard Bernstein à la baguette et Glenn Gould en tant que soliste. C'était en 1961 avec l'Orchestre Philharmonique de New York.
Les grands interprètes. Julien Hank. France Musique.
En écoutant cet enregistrement, on imagine assez mal que Glenn Gould portait en réalité le concept même du concerto en horreur. Il a beaucoup écrit sur le sujet et à propos du genre du concerto, il n'hésite pas à parler de structures thématiques fastidieusement répétitives, de cadences souvent démodées, faussement aristocratiques avec tous ses pépiments prétentieux et d'un rapport soliste-orchestre qu'il résume à la phrase suivante. Jouez votre thème, puis regardez comment je m'y prends pour le faire plus lentement, plus doucement et plus subtilement que vous n'en êtes capable. Enfin, il conclut ainsi, toutes ces choses ont contribué à créer une tradition concertante qui a produit dans le domaine de la musique certaines des manifestations les plus embarrassantes du besoin apparemment fondamental qu'a l'homme de parader. Un répertoire où la parade semble beaucoup plus discrète, voire inexistante, où le rapport entre instrumentiste est sans doute plus équilibré et sain, c'est celui de la sonate pour deux instruments. Glenn Gould a enregistré de manière notable une sonate pour violon et clavier de Bach avec Yehudi Menuhin. Je vous propose d'écouter le Siciliano de cette quatrième sonate, un enregistrement de 1966, 5 années après donc ce Beethoven avec Bernstein. Thank you. Le Siciliano de la quatrième sonate de Bach pour violon et clavier. Vous avez peut-être reconnu la sonorité de Yehudi Menuhin et cette constance reconnaissable de Glenn Gould à ses côtés. Un enregistrement de 1966 et qui n'a pas été facile à faire pour des raisons assez extra-musicales. Même si les deux musiciens ont fait connaissance dès le début des années 60 et que Glenn a toujours souhaité travailler avec Menuhin, les contrats d'exclusivité qui liaient chacun des artistes à leur maison de disques rendaient la chose quasiment impossible. Et ce n'est donc qu'en 1966 qu'ils ont réussi à contourner cette difficulté. Une autre collaboration notable dans le répertoire de musique de chambre de Bach, c'est celle de Glenn Gould avec le violoncelliste Leonard Rose. Et je dirais que cette collaboration est sans doute encore plus précieuse que la précédente pour la simple raison que Rose et Gould paraissent peut-être plus encore sur la même longueur d'onde dans leur approche de Bach. Je vous propose d'en juger avec ces deux mouvements de la troisième sonate en sol mineur de Bach, BWV 1029, Vivace et Adagio.
Thank you.
Glenn Gould et le violoncelliste Leonard Rose dans la troisième sonate en sol mineur de Bach. C'était en 1974 à l'occasion de la petite intégrale qu'ils ont enregistrée ensemble. Alors le début des années 70, c'est une période extrêmement productive pour Glenn Gould au niveau de l'enregistrement de disques. Il y a 3 ou 4, parfois jusqu'à 6 disques qui sortent chaque année et parfois des curiosités qu'on ne trouve pratiquement plus sur le marché. Par exemple, en 1976, il enregistre l'intégrale des sonates pour cuivre et piano de Hindemith. En 1977, un enregistrement des 3 sonatines de Sibelius. Une chose qu'il a beaucoup faite aussi à cette époque et qui est moins connue, c'est l'écriture journalistique. Glenn Gould avait une plume assez remarquable et il était assez courant qu'il publie des textes, notamment dans le New York Times, sur des collègues musiciens. Et à la lecture de ses textes, on dénote aussi bien une lucidité et une empathie très impressionnante vis-à-vis des autres qu'un style d'écriture assez affirmé. Dans un article publié le 14 mai 1978, portant sur Stokowski et commençant par cette phrase « Je ne suis pas une grenouille de coulisses », il écrit tout un long paragraphe très éclairant sur son rapport aux autres musiciens et notamment sur le souci qu'il a avec les conversations entre musiciens. Je vous propose d'en lire un extrait en amorce du Quatuor de Schumann qu'on écoutera ensuite. J'ai toute ma vie évité la compagnie des musiciens. De manière générale, les musiciens ont tendance à parler de musique, car c'est après tout le moyen le plus facile de briser la glace. Ils ont tendance à parler des théories analytiques, des révélations émotionnelles ou des expériences tactiles qui se sont accumulées à l'occasion d'une étude récente d'une partition ou de leur présence au concert d'un collègue. Et même si leur conversation a un contenu fraternel et charitable, elle appelle presque forcément une réaction, un commentaire ou une contre-argumentation. La même chose, écrite ou à la radio, aurait un impact différent. On peut toujours éteindre le poste ou tourner la page. Mais dans la conversation, la courtoisie exige que l'interlocuteur réagisse, reliant sa propre expérience aux propositions qui font l'objet de la discussion. Il s'agit, à mon avis, d'un exercice dangereux. Je suis convaincu qu'un artiste ne peut vraiment travailler que dans la solitude, dans un environnement tel que sa connaissance du monde extérieur soit contrôlée en permanence, sans que l'unité indivisible de l'idée et de sa réalisation puisse être brisée par une irruption étrangère. Thank you. Le scherzo du quatuor avec piano de Schumann, l'opus 47, toujours avec les musiciens du quatuor Juilliard, l'une des seules occurrences de Glenn Gould en train de jouer avec ce type de formation. On peut citer aussi un document autrefois assez rare qu'on peut depuis quelques années retrouver sur YouTube. C'est Glenn Gould jouant le quintet pour piano et cordes de Shostakovich lors d'un programme télévisé, le Sunday Concert, Music in the USSR, un programme retraçant la musique qui se faisait en URSS. Je vous propose de terminer ce tour d'horizon des plus belles collaborations qu'a eu Glenn Gould avec l'enregistrement du 5e concerto de Beethoven en compagnie du chef Léopold Stokowski. Alors grâce à l'article du New York Times que je vous ai cité, on a quelques témoignages écrits de ce que pensait Glenn Gould du concerto en question et de sa collaboration avec le chef. Comme la plupart des bombes à gros calibre de la production beethovenienne seconde manière, le concerto L'Empereur est une œuvre relativement simplette sur le plan harmonique. Ce qui explique peut-être que Glenn voulait lui donner un traitement différent, en essayant de faire le moins possible usage de rubato. Et voici ce qu'il dit de son approche. Quel que soit leur contexte harmonique, j'étais bien décidé à différencier les thèmes par des variations de toucher plutôt que de tempo. Le témoignage rapporte également l'avis contraire de Stokowski qui répliqua avec beaucoup de tact « C'est très bien, mais ne pensez-vous pas que certains passages pourraient aller un peu plus vite et d'autres un peu plus lentement ?» C'est donc sans doute un compromis qui s'est finalement déroulé devant les micros. Mais on peut être cependant attentif à cette constante chez Glenn Gould de vouloir privilégier les nuances de dynamique plutôt que les variations de tempo. Écoutez.
Thank you.
Et voilà, pour terminer ce quatrième volet de notre série sur Glenn Gould, nous écoutions l'Adagio un poco moto, deuxième mouvement du concerto L'Empereur de Beethoven. L'American Symphony Orchestra sous la baguette de Leopold Stokowski, c'était en 1966, et ça en donne sans doute l'une des interprétations les plus idiosyncratiques de cette œuvre. Ah bah tiens, idiosyncratique, c'est peut-être le qualificatif le plus flou et donc le plus générique pour parler des deux interprétations extraordinaires, chacune à sa manière, des variations Goldberg que je vous ferai écouter demain. Nous consacrons la dernière émission de cette série à ce sommet de sa discographie qui a largement contribué à construire la légende Glenn Gould. Et pour l'heure, il est temps de remercier l'équipe qui a participé à la réalisation de cette émission. Davy Travailleur, Dorothée Goll, Stéphane Poitevin, Frédéric Kieffer. Une émission à réécouter et podcaster sur le site de francemusique.fr et sur l'application Radio France. Et quant à moi, je vous dis à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.